French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode de French Expat vous est présenté par PetitPoussinNY.com. Crèche et maternelle bilingue français-anglais, elles accueillent vos enfants de 0 à 5 ans, entre 8h et 18h, dans leurs établissements de West Harlem, Brooklyn et du Lower Upper East Side. Appelez dès aujourd'hui le 212-663-7777 et dites French Expat afin d'obtenir une réduction de $500, valable sur toute inscription de 6 mois ou plus, avant le 31 mai 2024. Une belle manière de commencer l'année. Merci à Petit Poussin pour son soutien. Maintenant, place à l'épisode.
Maintenant, attention, il ne faut pas non plus être rêveur et ne pas arriver préparé. C'est comme un combat pour un boxeur en 12 reprises, l'Amérique. Ça veut dire que tu as un temps pour l'entraînement, tu as un temps pour monter sur le ring et pour décrocher ton titre, parce que c'est dur. Je peux pas mentir aux gens qui ont l'intention de venir. Ça veut dire que c'est un combat. Tu vas rencontrer beaucoup de vicieux. Tu vas surtout quand tu n'arrives pas avec un métier, que tu vas pas travailler dans une entreprise et que voilà, quand tu es un indépendant comme moi et que tu es un autodidacte et que tu apprends sur le terrain, faut être plus vif et plus fort que les autres, parce que sinon tu te fais manger. Tu deals avec des avocats, tu deals avec des agents, tu deals avec... Et là, c'est compliqué, tu vois. Donc, je pense qu'il faut vraiment se préparer. Il faut être ambitieux, mais il ne faut pas être stupide dans ton rêve en te disant « je vais tout casser » et avoir l'arrogance, tu vois. Souvent,
ouais,
les Français...
Ou la naïveté, ouais.
Ouais, ils ont l'arrogance. Déjà, ils ne veulent pas bosser. Ils pensent qu'ils vont être movie star ou entrepreneur en 6 mois. Ça n'existe pas, ça, tu vois. On se remet en question en permanence. Même aujourd'hui, je me remets en question, alors qu'on a un documentaire, là, on a des stars interplanétaires et tout, et tous les jours, on se remet en question. Donc voilà, mais c'est quand même c'est un drôle de chemin quand je retourne en arrière. C'est un film. Puis j'ai eu des événements, si tu veux, dans ma vie où la distance, c'est problématique. Ma mère était malade pendant 3 ans avant de partir. Je faisais des allers-retours. C'est dur quand t'es expat. Ça veut dire que t'as envie de profiter quand tu vieillis de ta famille, de tes parents. Et tu te dis que toutes ces années où t'as pensé au succès, à ta réussite personnelle, aux rêves, eh ben, c'est des années que t'aurais pu passer avec ta famille pour profiter d'eux. Tu vois. Et moi, au bout de tant d'années, je pense à ça en fait.
La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer afin de ne pas perdre l'équilibre. Ces quelques mots empruntés à Einstein résonnent parfaitement avec l'histoire de Fabrice Sopoglian, notre French expat de la semaine. Aujourd'hui, je vous invite donc à découvrir comment, alors que rien, mais alors vraiment rien, ne l'y prédestinait a priori, Fabrice est devenu à l'âge de 16 ans organisateur de soirées étudiantes parisiennes. Une anecdote pas complètement anodine, car cette première expérience va en fait s'avérer être un véritable tremplin pour la carrière du jeune Français. Mais comment Fabrice a-t-il transitionné du monde de la nuit parisien vers la réalisation de documentaires aux États-Unis? Et comment s'est-il lancé dans l'industrie du divertissement outre-Atlantique? Son périple absolument hors du commun l'a mené de voiturier dans un restaurant de Los Angeles à parrain des anges de la télé-réalité, en passant par la gestion d'un club de striptease. Un parcours pour le moins éclectique pour ce bosseur et rêveur qui ne manque jamais d'idées et encore moins de détermination. Dans cet épisode, Fabrice Sopoglian partage avec nous les leçons qu'il a tirées de son parcours atypique donc et les défis auxquels il a dû faire face afin de réaliser ses rêves. Ensemble, aujourd'hui, on découvre donc l'importance de saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent à nous. Fabrice évoque aussi l'importance de la persévérance et de la préparation afin de réussir dans l'industrie du divertissement qu'il compare à un combat de boxe en 12 rounds. Mais tout ça, Fabrice vous le dira bien mieux que moi. Dans ce nouvel épisode de French Expat, je vous invite à rêver, à vous creuser la tête. C'était quoi vos rêves d'enfant? Cet épisode, j'en suis sûre, va vous inspirer à vous raccrocher et à vous approcher autant que possible de vos rêves de gamin. Je suis Anne-Fleur Andrely. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si le contenu proposé par French Morning, le média des Français de l'étranger, vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner afin de soutenir notre travail. C'est parti pour une nouvelle histoire.
Salut, c'est Fabrice Sopoglian, voilà, français, expat, depuis plus de 20 ans.
Ah oui, c'est rapide.
C'est toujours dur de se présenter, en fait. Hein.
Je vous propose de découvrir le parcours de Fabrice aux États-Unis et avant, en procédant de manière chronologique. On sait donc qu'il est arrivé aux États-Unis en 2004, et plus précisément à Los Angeles, en Californie. Mais je trouve que pour mieux savoir qui on est et dans quel contexte on est parti, c'est toujours intéressant de savoir qui on était avant de partir, avant de quitter la France. Alors en 2002, 2003, ça ressemblait à quoi le quotidien de Fabrice Sopoglian ? Pour le savoir, direction Paris, où on retrouve le jeune Fabrice, âgé de 16 ans et avec une passion, rencontrer des gens.
C'est vrai que beaucoup de gens ont l'impression que ma vie, elle a commencé en Amérique. Hein. C'est ça qui est fou. Et qu'à travers les plateaux télé et tout. Mais j'ai bien eu une vie, en fait, avant. Et j'étais étudiant et à un moment donné, j'étais toujours passionné, si tu veux, par les événements, organiser des choses. Donc, je suis rentré dans le monde de la nuit par hasard, en fait, en distribuant des cartons d'invitation dans les collèges.
Ah ouais, des cartons d'invitation, pourquoi ?
Pour une soirée que je faisais au Whisky à Gogo. J'avais 16 ans, d'accord ? Donc, ça remonte. Et je sais pas, j'étais fasciné par cette petite équipe à Paris de jeunes qui remplissaient des 1000 personnes, 2000 personnes dans des clubs, tu vois, le Palace et tout. Et je me suis dit, je vais lancer des soirées pour rencontrer du monde. Voilà, c'était déjà, tu vois, mon cheval de bataille de rencontrer des gens pour essayer de faire des trucs et du business. Et de là, j'ai commencé une première soirée qui a cartonné. En distribuant des cartons, en connaissant personne, en me tapant 50 écoles par semaine avec mes cartons comme ça à la main. Je me souviens, c'était l'instinct mortel. J'avais pris la photo de Sharon Stone, de Basic Instinct.
Oui, voilà,
je l'avais appelé l'instinct mortel. Fabrice S. présente. Et j'avais eu 200 personnes. J'étais super content, tu vois. Et ça a été le début, en fait, d'un vrai business que j'ai développé. C'était l'organisation promoteur de soirées. Et ça a été une révélation pour moi. J'étais super timide. Tu vois, je n'osais pas parler aux gens. J'étais vraiment introverti dans mes rêves, quoi, comme beaucoup d'ados. Et puis, j'ai développé ce truc de soirée où je me suis mis en compétition avec les plus gros. Et je me suis fait un nom. Au bout d'un an, ils distribuaient 1000 cartons, j'en distribuais 20 000 à la sortie des écoles, tu vois. Et des fois, je faisais 3 soirées par semaine, j'avais 4 cartons, 4 flyers différents que je donnais. Voilà. Donc, comment, en fait, si tu veux, je suis tombé un petit peu dans le milieu artistique au début, en étant étudiant. J'ai enchaîné, tout simplement, et... je suis tellement monté au niveau organisation de soirée que j'ai fini par être, à l'âge de 18 ans, donc jeune, directeur artistique d'un nightclub qui s'appelait le Hammam Club à Paris, après avoir fait 100 soirées, actionnaire de ce club, à gérer 30 personnes, tu vois, ou 20 personnes, et à organiser des soirées, si tu veux, dans un club qui marchait pas trop et à faire venir plein de gens, des stars et tout. Ça a commencé comme ça. Et si tu veux, ça a pris une bonne partie de ma vie la nuit pendant 5-6 ans. Et de là, j'ai décidé de monter, si tu veux, une agence d'événementiel. Donc ça, c'était toute la partie à Paris de 18 à 25, tu vois. Et j'ai monté une agence qui s'appelait Majestic Events, où en fait, j'ai eu cette idée à l'époque qui n'existait pas. C'était de faire venir des célébrités à des soirées pour des marques, mais en fait en les payant pas, mais en leur donnant un cadeau. Donc de là, j'ai sollicité 200 marques. J'avais pris un petit bureau, tu vois, à Paris. J'avais un associé et tout. On était une petite équipe, vraiment légère parce qu'on n'avait pas trop de sous. Et si tu veux, j'ai chopé des budgets avec Puma, pour des inaugurations de boutiques, Dolce & Gabbana, Émail Diamant, le dentifrice, tu sais, de l'époque et tout. Et en fait, eh ben, ils nous payaient pour faire venir des stars, 10 stars. Alors, on a fait l'inauguration de la boutique OA, le Puma. J'ai fait venir à l'époque des gens qui étaient tendance en France, tu vois, comme Ophélie Winter, et voilà. Et ça marchait bien. Mais j'avais toujours, si tu veux, ce rêve dans ma tête de partir aux États-Unis. C'est-à-dire que je suis pas devenu expat parce que ça fonctionnait mal pour moi, bien au contraire. J'avais ma petite boîte, je faisais le Festival de Cannes, j'ai fait le Festival de Cannes pour le film français. En fait, de soirée étudiante, j'ai grandi et je suis devenu un pro de l'événementiel, tu vois.
Et complètement formé par toi-même, en fait, par tes propres expériences.
Ouais, vraiment autodidacte. Ça veut dire que je connaissais rien aux soirées, rien à l'organisation, rien. Mais c'est pour te montrer le cheminement que le relationnel et les rencontres, c'est ce qui fait tout dans une carrière, en fait. Faut que tu sois pro, mais tu te développes. Mais les rencontres, c'est incroyable. Et en fait, en organisant une soirée, un soir, je suis assis à côté d'un vieux monsieur, tu vois, parce que j'ai vieilli depuis, mais il devait avoir genre 70 ans, tu vois, cheveux gris, assez classe, costume. Et puis il me dit, écoute, c'est assez fascinant, tes soirées, l'organisation, etc. Et t'as jamais pensé à écrire un truc sur ça? Je dis, mais les gens que j'ai rencontrés, c'est fabuleux. Et je lui parle de 3-4 anecdotes, tu vois. Et je lui donne ma carte de visite. Et le lendemain, en n'ayant jamais écrit une ligne, j'ai reçu un contrat pour écrire un livre.
Ah, c'était un éditeur.
Il s'appelait Jacques-Marie Lafont.
Ah, oh, la vache, ouais, d'accord. Ouais.
Donc, tu vois, j'ai eu un contrat pour écrire un livre. Je me suis dit, mais comment, j'ai jamais écrit une ligne de ma vie, comment je vais faire? J'ai commencé vraiment, tu vois, le soir, j'ai écrit 30, 40 pages. J'ai demandé à mon père de me donner un coup de main, etc. Et de là, j'ai sorti un livre sur le monde de la nuit, en fait, qui relatait tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais rencontré, qui était en fait l'histoire d'un petit bonhomme qui se retrouvait comme ça, dans le succès de la nuit, à travers plein d'anecdotes. Il s'est paré un soir dans une boîte de nuit Gianni Versace avec son mec, et 2 mois après, bah, c'était l'assassin de Gianni Versace. Le mec, tu vois, des histoires assez incroyables.
Ouais.
Et c'est super bien vendu. Il s'est super bien vendu. Je crois qu'à l'époque, j'en ai vendu plus de 100 000. J'avais 20 ans, hein, ou 21 ans, donc tu vois. Et puis, je me suis dit, écoute, c'est peut-être mon créneau. Peut-être qu'il faut que j'écrive des livres, des scénarios. C'est peut-être l'artistique. La nuit, je bois pas, je fume pas, je me drogue pas. Ça me correspond de moins en moins, mais j'aimais la facilité à rencontrer des gens, à devenir copain, parce que dans le monde de la nuit, tu deviens ami avec une célébrité, alors que le jour, c'est difficile. Tout le monde est assez coincé, tu vois. Ah ouais, le monde de la
Comment
nuit.
Comment t'expliques ça?
Parce que sous l'effervescence de l'alcool, de la musique, de tout ça, tu deviens très vite ami avec les gens, tu vois. Ça veut pas dire que le jour va t'emmener à faire des affaires. D'ailleurs, le titre de mon livre, c'est « Les paroles de la nuit ne voient jamais le jour ».
Ah, génial.
Tu vois, donc ça ouais. le titre avait une vraie consonance par rapport aux gens que je rencontrais la nuit, où j'arrivais à jamais finaliser le jour, si tu veux. Et puis, lors d'un de mes événements, je rencontre une nana super sympa qui va me faire décrocher la nuit, en fait, qui est une nana du show business à l'époque, tu vois, qui est une Miss France. Et bon, on a un coup de cœur l'un pour l'autre, on va rester un an ensemble. Et là, je vais vraiment me mettre dans l'organisation, mais surtout, je devais développer un peu de production. Donc, avec son soutien, parce qu'elle a une bonne image en France et tout, je commence un petit peu, si tu veux, à faire des petits pilotes d'émissions et tout. Et puis, je me rends compte, voilà, je dois avoir 23 ans, tu vois, 23, 24 ans. Et je me rends compte que bon, je mets mon cœur, tu vois, dans les projets et tout, mais ça passe pas. Je sais pas pourquoi. Les gens que je rencontre, je me retrouve en face à l'époque du patron de TF1, Étienne Moujotte, tu vois, que tous les professionnels connaissent.
Ou même le grand public, hein.
Ouais, même le grand public. Et j'ai fait un pilote, mais béton. Anne-Fleur, je te jure.
C'était quoi?
C'était un truc de cosmétique sur la beauté avec Sophie Talman, qui était donc la Miss France de l'époque avec qui j'étais. Et il y a prescription, maintenant ça fait 20 ans, donc je peux en parler. Et en fait, on arrive dernier étage de TF1, je lui donne mon pilote. J'ai dû dépenser à l'époque 5 000 ou 10 000 euros, mais c'est une fortune, tu vois.
Ouais.
Et là, 5 secondes, il me dit « Tu veux pas prendre des bonbons ?» Genre, il a un truc de bonbons sur son bureau. Il me donne un Twix ou un masque, un Mars, je sais pas. Genre, il faisait 8 degrés, je transpirais comme si qu'il faisait 45 degrés dans le bureau, quoi, tu vois. Et là, je suis content, je lui mets ma cassette. C'était des cassettes VHS à l'époque. Et au bout de 10 secondes, ma parole, il s'endort sur sa chaise.
C'est pas vrai?
Ouais. Le truc qui dure 2 minutes, il dort. Il dort. Et puis elle mougeote, il est en face de moi et il pique du nez, il s'endort. Et moi, je peux pas le réveiller, c'est le patron de TF1. À côté de moi, j'ai Sophie Talman, tu vois, qui me regarde et tout. Et je dis, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. À la fin, ça s'éteint. Il sursaute. Et il me dit, très bien, hein, mes petits, hein, très bien. Bon, on va regarder tout ça et on vous rappellera. Bon, il nous aura jamais rappelé, t'imagines bien. Et puis, 2-3 échecs comme ça. Je me dis, là, j'ai 22 ans ou 23 ans. J'avais fait déjà, si tu veux, j'étais parti 4 mois à Los Angeles, ou 5 mois à 21 ans. Je faisais des allers-retours quand j'étais jeune. J'avais la chance que mes parents me faisaient voyager.
Ah oui, donc tu connaissais un peu les US quand même.
Donc, j'avais découvert déjà Los Angeles quand j'avais 12 ans. J'avais pris un électrochoc de cette ville, du cinéma, de comment tu pouvais aborder les gens à tous les niveaux. Donc, c'était mon rêve. À 21 ans, à travers la nuit, j'ai pu faire 4 mois. Je me suis retrouvé physionomiste d'un restaurant sur Sunset Boulevard. Tu vois.
D'accord. Physionomiste, c'est tu rentres, tu rentres pas.
Ça veut dire tu rentres pas, etc. Par le biais d'un copain qui était en fait le fils du patron, avec qui je faisais des soirées à Paris, tu vois, quand j'avais 19 ans. Comme quoi, les rencontres, voilà. Il m'a dit, il ouvre son restaurant. Est-ce que tu veux faire la porte? Et le restaurant s'appelait le Barfly. C'était le restaurant. À Paris, il a été tendance pendant des années. Et à Los Angeles, première année, ils ont tout le monde. Quand je te dis tout le monde, je rencontre tous les soirs, il y a des stars. Ouais, Mickey Rourke, et les Van Damme, et les Brad Pitt, et Puff Daddy. Et là, j'ai un problème, c'est que je n'ai pas de papier.
Donc là, c'est pendant les 5 mois quand tu avais 21 ans?
Voilà. D'accord. Là, j'ai pas de papier. J'ai oublié un peu cette étape avant l'événementiel et avant sortir avec une nana connue, etc. Je voulais rester, mais j'avais pas de papier. Et puis, je me rends compte que d'être illégal, parce que tu vois, tout se retrouve, parce qu'on va pas, on parle aux expats, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, j'ai mon père qui est pas bien, qui est malade. Je dois rentrer. Si je suis illégal, j'aurais pas pu le faire. Imagine-toi que je le perds ou truc. C'est terrible. C'est une sensation terrible quand t'as pas tes papiers. Donc je me dis, dans une semaine, mon visa s'expire. Qu'est-ce que je fais? La porte du Barfly, ça représentait 3 000 euros, 4 000 euros par semaine avec les tips, ce qui était énorme.
Ah waouh. Ça
fonctionnait.
Même encore maintenant.
Ouais. Donc ça, c'était incroyable, et les rencontres et tout. Et de là, si tu veux, je me suis dit bon, family first, la famille c'est le plus important. Je rentre en France et j'oublie le Barfly en annonçant à mon pote, voilà, je suis dans une situation précaire. J'ai envie de rester, je peux rester illégalement, mais si mon père ça va moins bien, je suis bloqué et je pourrais pas m'en remettre. Donc je décide d'abandonner mon rêve américain, je rentre en France, je prends soin de mon père. Et de là, c'est là où j'enchaîne l'événementiel, mais avec ce goût amer d'avoir loupé mon rêve. Voilà. Et en plus, la prod en France, je vois que c'est dur, que c'est une petite famille et tout, que je fais des castings, mais pour être animateur... Personne me donne ma chance. Donc, je me dis, j'ai cette idée, si tu veux, à l'époque. Là, au bout d'un an et demi de relation, ça bat un peu de l'aile et tout. Je me dis, écoute, j'ai un contrat pour un deuxième livre avec un autre éditeur sur la vie d'un paparazzi, en fait, pour suivre un paparazzi qui m'avait pris en photo avec cette Miss France. Tu comprends? J'avais rencontré. Donc, encore une rencontre. Et le mec est à Los Angeles, il fait les plus grandes stars après avoir fait plein de gens à Paris. Je suis resté en relation avec lui. Il me dit, ouais, j'aimerais bien, on écrit un livre et tout. Je me dis, allez, j'arrête. J'appelle mon partenaire. Je lui dis, j'arrête la société, je pars en Amérique. Il me dit, mais t'es un fou, on a une boîte qui fonctionne, j'y écoute, je suis plus en relation avec ma copine. Le business, c'est plus ce que j'ai envie de faire. Et je rêve d'Amérique. Donc, je vais partir.
Et ouais, là, t'avais pas lâché, quoi.
Ouais, j'avais pas lâché. J'étais rentré, si tu veux, comme un perdant parce que j'avais abandonné. Et je me suis dit, je suis pas arrivé au bout, en fait. Je le sentais, tu vois. Et là, je pars pour écrire ce livre avec mes deux valises, un peu de sous, mais pas énormément, et mes rêves plein la tête en voulant faire de la production, en voulant faire truc. Voilà. Mais je savais que c'était dur. J'étais pas, si tu veux, un rêveur, mais j'avais un goal. Et c'est là où on revient souvent pour les gens qui me posaient la question, qui me disaient, oui, mais pour partir, il faut une formation, il faut un goal, si tu veux. Tu vois, si t'as pas ce goal en tête, à la finale, ça sert à rien, quoi, parce que tu vas te perdre dans tout un tas de trucs, et puis tu vas te retrouver dans un schéma où tu vas galérer, tu vas faire 10 boulots et ça va pas bien se passer, quoi qu'il arrive, tu vois. Donc, si tu veux, j'arrive en Amérique. Et je suis ce jeune, paparazzi pendant 3 mois, donc j'écris, truc, voilà. Et puis, je me dis, est-ce que je vais rester, est-ce que je vais pas rester, parce que je fais pas de sous, que c'est compliqué, je dépense plus d'argent qu'autre chose, etc., tu vois.
Donc du coup, tu suis ce mec pendant 3 mois, tu te rends compte que tu brûles plus de cash que t'en gagnes, en gros ?
Voilà, là, je me rends compte que le rêve américain, il a changé, que je bosse plus dans un club, que j'ai plus le mojo, comme on dit, que je le suis, que ça me coûte de l'argent. Au moment de l'éditer, le livre, une fois qu'il est écrit, au bout de 6 mois, il s'oppose à la sortie parce qu'il flippe.
Le paparazzi ?
Ouais, le paparazzi. Donc, en fait, les 5000 copies, je dois les jeter. Je les brûle. Donc, je dois tout refaire. Donc, là, le rêve américain, tu vois, il se transforme un petit peu en queue de poisson, quoi. Et donc, si tu veux, mon magot, le peu de magot que j'ai emmené fond au soleil, je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? Tu vois, ça va être super compliqué. Mais indépendamment de ça, si tu veux, je sollicite, j'ai cette idée à l'époque, comme le DVD, des petits films indépendants marchaient bien, de m'associer avec un mec que je rencontre en suivant le paparazzi, si tu veux. Et on commence à faire des petits projets de films, mais très, très, très low budget, tu vois, à 30 000 dollars, 20 000 dollars. Et on fait financer les acteurs, en fait. C'est-à-dire que les acteurs qui rêvent d'être dans un film, ils mettent 5 000, 10 000 dollars pour acheter leur...
Ah ouais, d'accord. OK. C'est un Français qui fait ça avec toi ou un Américain ?
Ouais, un Français avec qui, d'ailleurs, je suis encore associé sur des projets. Et donc, on fait des petits projets comme ça, indépendants. On les vend en DVD. On fait des trucs, ça nous rapporte un petit peu de sous. Et puis, la vie, quoi. Je rencontre ma femme, tu vois, une Allemande à Los Angeles, pas une Américaine. Et puis, on se met ensemble, je me sens bien. Je dis à mes parents, ça fait un an maintenant, j'ai tenu, ce serait dommage de rentrer. J'avais fait un visa, moi, grâce au succès de mon premier livre.
Là, un visa talent ou...
Ah voilà, un visa talent. Donc, du visa, j'arrive à le passer en green card après et tout. Donc, au moins, j'ai pu, si tu vois, ce problème. En me disant, il faut tenir. Le plus dur, c'est de tenir. Mais la vie était quand même beaucoup moins chère que maintenant aux US, l'essence, le truc. Donc, c'était moins cher qu'en France, quoi. Donc, tu pouvais faire attention sans dépenser des millions par mois. Ce qui n'est plus le cas si tu veux une vraie vie, si tu veux tes enfants dans une école privée et tout. Ça coûte de l'argent. Et si tu veux, je me dis, comme je suis ici, je vais solliciter un petit peu des chaînes françaises et tout. Et de là, je fais la démarche de solliciter 2-3 producteurs que j'avais rencontrés à l'époque, que personne voulait faire des trucs avec moi. Mais du fait que là, j'étais à Los Angeles, j'avais pris une autre dimension.
Il y a toujours cet attrait, en fait, pour la vie américaine vue de France. C'est un truc que tu as ressenti ?
Ouais, toujours, parce que quand tu dis j'habite à Los Angeles, ouais, ça fait, tu vois, ils ont l'impression que tu fréquentes des stars tu vois Elton John toute la journée, quoi. Mais en fait, quand tu vis dans ça, en vérité, et que tu travailles avec des gens connus, et que voilà, moi j'expliquais souvent à mes proches que bah ma vie c'est faire du show, et quand le show c'est fini, bah j'emmène ma fille à l'école et je suis chez moi et j'ai pas envie de voir des gens connus à longueur de journée parce que déjà ils m'intéressent pas. Et que c'est très dur de se lier des amitiés sur des relations d'intérêt. Ça veut dire que c'est beaucoup que de l'intérêt, tu vois. Donc, si tu veux, là, il y a de l'intérêt vis-à-vis des producteurs. Et je commence à faire des petits trucs, des missions tellement vraies, tellement people à l'époque sur les Français. Je me dis, je vais développer une niche, je vais parler des Français à Los Angeles. Alors, ça part d'acteurs, tu vois, qui décrochent un rôle et qui cartonnent à la Gilles Marini qui a fait Sex in the City. Tu vois, j'essaye de prendre le photographe des stars américaines, français et tout. Et là, on trouve une niche, en fait, toute simple, de faire des petits programmes comme ça, tu vois, indépendamment des films indépendants. Mais les films indépendants, ça prenait du temps, les scripts, voilà, et tout. Donc, du docu-réalité, en gros. Enfin un reportage, et j'en fais quelques-uns, et là je rencontre Christian Audigier, le designer à l'époque, et je lui dis j'aimerais bien faire un truc sur ta fille, elle a 16 ans, elle est tendance, elle a sa marque de vêtements et tout, et là je fais un truc sur Christian et surtout sur sa fille en colonne vertébrale, et je le vends à TF6 avec un producteur français, TF6 qui était la fusion TF1-M6. Je dis putain, il a fallu que je fasse 10 000 kilomètres que je sois à Los Angeles pour commencer à faire des trucs en prod. Mais je sens qu'il y a un truc, tu vois. Et là, ça fait un an et demi que je suis là, deux ans. Non, un peu plus longtemps, hein. Je te dis des bêtises.
Ouais, c'est les débuts de la TNT, en fait.
Ouais. Je pense que ça faisait 4-5 ans. Et j'avais fait un truc entre-temps, indépendamment des films, un business, mais qui est une erreur. Et qui me fait perdre un an. Et là, c'est un truc... Ils vont se dire, tes auditeurs, mais c'est un film, quoi. Quand je suis en France, je regarde un film, alors, mais tu t'attends pas du tout à ce business. Je regarde un film qui s'appelle Showgirl. Je sais pas si tu te souviens, ce film qui est sur une stripteaseuse à Las Vegas, qui bosse dans un club qui s'appelle Cheetahs et qui est un strip club. Voilà. Et bon, moi, je suis un mec, je suis jeune et tout, je vois l'Amérique, strip club, belle nana et tout. Je dis, tiens, ce club, quand je serai en Amérique, faut absolument que je passe. Il y en a un à Las Vegas, un à Reno, un à Los Angeles.
Ah, c'est une chaîne, d'accord.
Ouais, c'est une chaîne. Et un soir, au bout de... ça doit faire deux ans et demi que je suis là, trois ans, je suis en voiture comme ça. Et puis, je m'arrête à sur Hollywood Boulevard et je vois Cheetahs. Donc là, je descends, je vais boire un verre, tu vois. Bon, ma femme, elle est au courant, elle est cool. Elle me dit, ouais, tu peux aller boire un verre dans un strip club de temps en temps. Elle sait que c'est un show, tu vois, qu'il n'y a pas de... Bref, je descends, si tu veux. Je vais boire un verre, je suis tout seul, hein, comme un vieux vicieux. Mais c'était un bikini bar, donc c'était clean, tu vois. Et là, je m'assois à côté d'un monsieur de 60 ans, tu vois, grosse moustache, un peu arménien, genre un peu mafieux. Il me dit, hey, comment ça va? Are you doing? Je lui dis, I'm good.
Un peu film américain.
Ouais, genre les sopranos, quoi.
Oui,
mais c'est une ambiance, tu vois, que j'avais retrouvée, que je connaissais de la nuit et tout. Donc, ça me plaisait, tu vois, tous ces trucs, les films de gangsters et tout. Et là, je sais pas, je lui dis, il est beau ce club, il est pas à vendre. Il me dit, si, il est à vendre. Il me dit, il fait pas partie de la chaîne, je le vends $1 million. $1 million, je devais avoir 20 000 d'avance, tu vois, à l'époque, 30 000. Je dis, mais comment je vais acheter un club à 1 million? Mais je lui dis, je me démonte pas, je lui dis, donne-moi ton numéro, je vais te rappeler. Et le lendemain, je te jure que c'est vrai, je fais un déjeuner avec un Français, un fils de dentiste qui vient d'arriver, qui m'est présenté par un bon pote à moi, Romain Chavant. Qui finira par faire Secret Story grâce à moi, d'ailleurs, Romain, qui est un expat aussi, qui est devenu un peu le roi de la nuit ici, tu vois, à Los Angeles. Et en fait, il me dit, il y a ce copain-là, il est très BCBG, petit polo, Ralph Lauren et tout. Il me dit, il veut monter une affaire, il veut pour son visa et tout. Sa femme est là. Et là, pendant le déj, je lui dis, mais vous voulez pas monter un strip club? Le business, il est fabuleux et tout. Et moi, jamais, je pense qu'ils vont me dire oui, ou on est intéressé. Et il me dit, c'est combien? J'ai 5 millions de dollars. Elle me dit, ah non, on n'a que 1,5 million à investir et tout. J'ai dit, écoute, ça vous intéresse? Il me dit oui. Et là, je retourne voir le mec. Et c'est pour ça que dans la vie, c'est un coup de poker, je te jure. Et je lui dis, j'ai un demi million. Je vais te l'acheter, le club. Mais j'ai pas vu un chiffre, j'ai pas un franc, hein. J'ai pas un dollar pour lui acheter. Et le reste, je vais te le payer tous les mois en notes. Ça veut dire, c'est comme un crédit, tu vois. Tu lui donnes 10 000 tous les mois. Et il me dit OK, lui aussi. Alors que je pensais jamais qu'il allait me le vendre, truc. Bref, je me retrouve propriétaire du Cheetahs Club au bout d'un mois.
C'était un peu ton rêve au début en même temps.
Ouais, mais je retombe dans la nuit. Et là, je me retrouve dans un contexte, en fait, pendant 8 mois qui me plaît pas, tu vois. C'est que des histoires, c'est que des trucs, etc. Bon, ma femme qui est pas super contente que je m'occupe d'un strip club en plus, ma fille qui arrive au monde. Bref, le timing, il est pas parfait. Je rentre chez moi tard, tu vois, et tout. Heureusement que j'ai de la rigueur, mais il y a trop d'histoires, trop de trucs. Et je dis à mon associé, bon, je te laisse mes parts. Le jour où tu vends, tu me donnes de l'argent. Mais je pense que c'est pas pour moi. Voilà la transition, si tu veux, entre...
D'accord. Voilà. Donc, c'est ça l'année que tu dis avoir perdu.
L'année que j'ai perdu. Et de là, si tu veux, comme je continuais les petits trucs entre les Tellement Vrais, les Christian Audigier, que je trouvais qu'il y avait une bonne niche, eh bien, si tu veux, j'ai cette idée de me dire, il manque une sorte de série avec des Français comme Sous le Soleil, la série qui marchait bien, tournée à Los Angeles avec des acteurs français. Et je commence à faire un pilote qui s'appelle West Hollywood, tu vois, qui est deux jeunes Français qui arrivent et qui galèrent et qui n'ont pas de papier, qui travaillent dans les restaurants. J'essaye tout ce que j'ai rencontré pendant 5 ans, en fait, je le mets dans ce pilote et j'arrive à faire intervenir des gens sympas, tu vois. J'ai Jimmy Jean-Louis, l'acteur d'Heroes, j'ai Gilles Marini qui a fait Sex in the City, j'ai Shauna Sense qui a fait pas mal de trucs en France, la femme de Lorenzo Lamas et tout. Et si tu veux, le pilote, il reste en développement chez M6 pendant 6 mois. Énergie 12 adore le projet et tout. Et c'est à ce moment-là, si tu veux, que je rencontre un peu les gens d'Énergie 12 et tout. Voilà. Et comment il me sollicite à un moment donné pour produire les segments des anges. Et comme c'est moi qui organise, ils me disent, bon, écoute, on va faire les 10 ans de la télé-réalité, ça te dirait pas d'être à l'écran. Et puis, l'aventure, elle commence comme ça.
Donc, tu étais déjà en production sur les anges avant qu'on... Non, tu as été dès le début des anges, en fait, du coup, c'est ça?
Ouais, dès le début, non, sur le format de, des 10, c'était les 10 ans de la télé-réalité. Donc, je commence, oui, saison 1. Mais je commence en tant que producteur de segments, quoi, sur place, tu vois, genre exécutif producteur sur place pour organiser les rendez-vous. Et le directeur de la chaîne, qui s'appelle Stéphane Joffre à l'époque, directeur des programmes plutôt, il me dit « t'as pas envie d'être à l'antenne, t'as un bon style, c'est toi qui emmène les rendez-vous, c'est légitime et on n'a pas pensé à un incarnant dans l'émission ». Et puis là, c'est un succès monumental.
Et donc, tu deviens le parent des anges.
Ouais, mais Paul, la place, elle n'a pas été en fait aussi simple parce que chaque année, ils se remettent en question. Mais je revenais, si tu veux, dans la médiamétrie, tu sais, dans les enquêtes, numéro 1, quoi. Ça veut dire, les gens, à chaque fois, ils lui disaient, on adore le parrain, on adore Fabrice. Le concept, c'est l'Amérique, c'est Fabrice, c'est les rendez-vous et tout. Et je deviens... je ne veux pas dire plus fort que le concept, mais je deviens attaché, tu vois, vraiment attaché à ce concept.
Ouais, tu fais partie du concept même.
Et en fait, ce n'est pas forcé, ce n'est pas surjoué. Je ne deviens pas une création du truc, c'est que c'est moi. C'est pour ça que ça fonctionne.
C'est juste qu'on le voit, quoi.
Voilà, c'est que les 5 ans que j'avais passé, si tu veux, à faire mon réseau, à rencontrer des gens, je le mets à l'antenne et je mets mon cœur, et les rendez-vous sont tellement importants. C'est des gens que j'ai rencontrés à chaque fois, que j'ai sollicités pour mes projets. Donc, en fait, je pense que le public ressent que ça existe vraiment.
L'authenticité.
Voilà, voilà. Et les candidats, à l'époque, ils ont vraiment ce rêve américain. Ils veulent venir vraiment pour réussir, tu vois. Ils veulent vraiment être là parce qu'ils veulent vivre leur rêve américain. On ne sait pas surjouer comme après. Il n'y a pas de produit de placement à l'époque. Il n'y a rien. Il n'y a rien de tout ça. Donc, on commence cette aventure.
Tu pourrais expliquer peut-être le concept de l'émission et du coup de ce que tu faisais quand tu parles de ces rendez-vous, juste parce que je ne sais pas si tout le monde va connaître l'émission, peut-être que ça vaut le coup de redire.
Ah bien sûr, ouais non, en fait le concept des anges, c'est qu'ils avaient 40 jours, ils sont designers de vêtements, chanteurs, boxeurs, acteurs, et en fait ils ont 40 jours pour venir en Amérique pour faire une formation avec les meilleurs, pour devenir le meilleur et pour finalement essayer de décrocher un truc. Donc j'ai eu des chefs, des cuisiniers, aujourd'hui il y a un chef qui travaille ici, qui a son passeport américain, qui est là depuis 5 ans et qui gagne très bien sa vie.
Et que tu as aidé par cette émission.
Ouais, bien sûr. Génial. Il a fait la saison 3. Aujourd'hui, il a sa vie ici. Il vit à Los Angeles. Voilà. Il y a une chanteuse qui est là. Il y en a une autre qui a fait un featuring avec Jason Derulo. Le boxeur, eh ben, il se fait son combat à Las Vegas ou ailleurs. Il se fait un entraînement contre Evander Holyfield. Il rencontre un Mike Tyson. Donc, si tu veux, la promesse, elle était énorme et il y avait une fascination pour ce rêve américain qu'on a moins maintenant, mais les jeunes préfèrent maintenant aller à Dubaï, ce genre de schéma. Mais à l'époque, tu rêvais de venir en Amérique. L'Amérique, c'était le cinéma, c'était Los Angeles, ouais. C'était l'Eldorado, tu vois. C'est rare quand tu parles à quelqu'un qui peut te dire « Moi, je me suis fait dans cette émission mes plus grands kiffs. » Ça veut dire, j'étais fan de films d'action, de Van Damme. Je l'ai emmené à Hong Kong, on a co-animé ensemble, on est reparti sur les traces de Bloodsport, de son film. J'ai emmené des gens comme Tyson, Holyfield, quand t'aimes la boxe et tout. Tu vois, donc, de Kim Kardashian même, tu vois, et tout. Donc, je me suis vraiment fait mon kiff et j'avais carte blanche sur certains trucs. Et même à l'écran, tu vois, j'étais moi-même. Donc, ça a plu. Je pense que toute cette moussaka...
Ils se faisaient gronder, les candidats, des fois. Hein.
Ouais, aussi, parce qu'il fallait les tenir, les petits. mais ça a été une belle aventure. Et pendant, si tu veux, le développement des anges, je remets West Hollywood sur la table parce que je pensais que faire une série à la The Hills, tu vois, un peu... réalité, ça allait fonctionner et West Hollywood deviendra revu et recorrigé par la chaîne Hollywood Girl qui est une série qui fera 4 ou 5 saisons où je serai exécutif producteur sur les premières saisons. Donc, je ne m'étais pas planté parce qu'au début, tout le monde me disait « Les Français à Hollywood, en télé-réalité, ça ne marchera jamais. On fera une saison. » On n'en a pas fait une, on en a fait 13 en Amérique. Voilà, plus 4 saisons d'Hollywood. Donc, si tu veux, les choses, elles se sont enchaînées après très vite parce que quand tu as du succès, ben, ça va très vite. On a fait 12-13 ans non-stop. Je tournais 3 mois par an. Le reste du temps, bah, je m'occupais de ma fille et puis je développais d'autres projets. Et puis, bah, normal, tu sais, quand tu tiens aussi longtemps, bah, à un moment donné, ça chute et puis il faut se renouveler. Ils n'ont pas réussi à se renouveler, les gens qui produisaient, si tu veux, ce format. Et puis après, le format a été racheté voilà, par Arthur aujourd'hui. Et...
Ah ouais, je ne savais pas.
Ouais. Et là, en stand-by, bon, peut-être que ça reviendra un jour ou pas. Mais voilà comment, en fait... tout le cheminement et puis bah j'ai plus bougé après depuis 2005 en fait de Los Angeles.
Donc ça a été un sacré tremplin parce que toi donc qui cherchais à faire des pilotes quand tu étais en France, qui tu disais faisait des castings pour devenir animateur, finalement en fait c'est incroyable ce que tu as fait aux États-Unis parce que tu as vécu ton rêve américain mais aussi ton rêve français finalement que tu as exécuté parce que tu étais aux États-Unis.
Ben en fait, tu sais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui... Quand t'es jeune, t'as envie de partir, on te dit ne pars pas, ça va être dur. Même tes parents, tout le monde. Surtout quand t'es établi, quand t'as une petite boîte qui marche, etc. Et en fait, faut écouter que soi. En étant smart, hein, attention, ça veut dire ne pas partir en faisant le kamikaze. Ouais, je vais être l'acteur, Brad Pitt, j'ai pas de plan. Non, Moi, j'avais un plan. Ça veut dire, sans plan, j'avais un plan. Ça veut dire que je savais que je voulais faire de la production, que j'apprenais, que voilà. Mais mon network, mon réseau, c'était mon net worth. Ça veut dire ma richesse, c'était les rencontres que parce que c'était mon don. Ça veut dire que je comprenais que je pouvais m'asseoir avec une célébrité au bout de 5 minutes, j'allais être copain avec parce que je trouvais les bons mots. Et d'ailleurs, t'as un livre sur la nuit qu'Hubert Bogobza avait écrit, le patron des Bains-Douches, qui était ami intime avec De Niro, et il t'expliquait dedans, que j'avais lu d'ailleurs, les célébrités, il faut leur parler de tout, surtout une personne comme De Niro, mais sauf de cinéma. Et moi, quand je rencontrais des gens connus, j'essayais vraiment de leur parler de trucs qui n'avaient rien à voir. Ça veut dire, tu vois, aujourd'hui, je rencontre un footballeur, j'aime pas le foot, je regarde pas le foot. Et il le sent tout de suite dans la discussion, ce qui m'a permis d'être pote avec des gros footballeurs, parce que j'ai pas d'intérêt. Et le cinéma, même si j'étais passionné un peu, tu vois, badaud et tout, j'allais pas lui dire, dire à Al Pacino, lui poser 1000 questions sur Scarface, parce que je savais que ça allait le saouler. Donc j'allais plus partir sur « Ah ouais, t'es parti là avec ta famille, moi je connais aussi les Bahamas. »
Une vraie rencontre finalement de quelqu'un de lambda,
tu les surprends. Et là, pareil, j'étais il y a 4 jours avec Dolph Lundgren, qui est Ivan Drago dans Rookie, qui fait Expandable et tout, qui est une légende vivante. Et je ne l'ai pas attaqué sur des trucs où j'aurais aimé lui parler, tu vois comme Rocky, pote avec Stallone. Je lui ai parlé d'autres trucs, d'autres sujets, de ses vacances à Mykonos, et on est devenus copains. Donc, et moi, ça fonctionnait pour moi parce que je savais le faire. Et c'est ça, en fait, que j'ai développé. Et oui, il a fallu, pour répondre à ta question, partir, quitter mon pays pour qu'on vienne me chercher. Ce qui est triste. J'aurais pas été en Amérique, j'aurais pas été à Hollywood, j'aurais pu faire 1000 castings, personne m'aurait pris dans Les Anges, parce que j'aurais été en compétition avec 1000 mecs à Paris qui étaient prêts à tout pour réussir. Et la distance, l'Amérique m'a donné, si tu veux, ce ticket d'entrée où j'étais plus pas rentré pendant des années. Je pars la tête basse en écrivant un livre, j'atterrais à Paris, je sais pas ce qui se passe, j'ai fait 5 saisons, je me fais stopper à tous les 100 mètres pour photos.
Oui, du coup.
Bah ouais. Et là, c'est un sentiment, tu vois.
Grosse surprise, j'imagine.
Ouais, c'est une grosse surprise, mais t'es fier parce que tu te dis, tu pars avec rien. Tu penses que tu risques de te planter. Tout le monde pense que tu vas te planter parce que ils sont contents, les gens. Hein. Attention, quand tu te plantes, quand tu rentres, que t'as pas réussi, c'est triste, mais c'est la vie m'apprend et m'a appris que dès que tu chutes, les gens sont heureux de ta descente. À part quelques proches et parfois même ta famille, donc enfin pas tes parents, parce que tes parents c'est vraiment eux qui te portent dans leur cœur, mais t'as des membres des fois de ta famille qui sont pires que certains mauvais amis, tu vois. Et voilà, donc si tu veux, c'est que des rencontres, et c'est là où, si tu veux, quand ça se stoppe, Les Anges, entre-temps, j'avais créé une petite relation avec Christian Audigier, comme j'avais fait son doc sur sa fille, et il me demande de produire un documentaire sur sa vie, parce qu'il est malade.
Tu le connaissais pas très bien encore?
Ouais, comme ça, bonjour, au revoir, mais pas super pote. Et un jour, il me donne rendez-vous dans son salon, et il me dit, je suis malade, j'ai un cancer. Ouais, je suis surpris, tu vois. Et il me dit, j'aimerais que tu me suives. Tu sais, je fais de la télé-réalité, te suivre, l'hôpital et tout. Je ne sais pas si je suis capable. Et puis, je le suis. Ça durera 3-4 mois. Après, il décède, malheureusement. Et puis, je le termine parce que je lui ai fait la promesse. Voilà, je trouve de l'argent. Sur son lit de mort, entre guillemets, il me dit, promets-moi que tu vas le finir. Et mon objectif, voilà, c'est de le finir parce que j'ai qu'une parole. Et je le finis, je fais un super doc et on finira par prendre 17 awards dans le monde.
C'est incroyable.
Et il est distribué.
Sachant qu'à la base, tu le suivais pour parler du combat contre la maladie et de,
ouais, avec
de
la
sa
réussite,
potentielle
parce que
guérison.
Christian,
quoi.
Voilà, Christian, c'était « je vais réussir, on va parler comment j'ai vaincu le cancer » et puis non, tout bascule. Et de là, j'essaye d'appeler 2-3 personnes qui me donnent un coup de main, dont Johnny Hallyday, très sympa. Il me répond à chaque fois par email, Je lui dis, Johnny, j'ai vraiment besoin de ton interview. Je sais que c'est pas ton truc. Et à ce moment-là, il a un cancer aussi, Johnny.
Tu le savais?
Non, je le savais pas. Et c'est pour ça que ça prenait un peu de temps. Et je le sais un mois après. Je dis, le mec, chapeau, il vient alors qu'il est malade. Il est pas bien. Tu vois, tu le voyais vraiment pas bien. Et il le fait sans doute pour Christian, parce que je lui demande et qu'il voit que je suis desperado parce que j'arrive pas à finir le documentaire, que c'est dur. Je demande à deux, trois personnes comme ça, comme Snoop Dogg. Super, Snoop. Il me reçoit chez lui. Il me fait une interview de fou. Et des mecs, attention, pas amis hein, avec moi, hein, mais j'arrive à leur parler ouvert. Ça veut dire avec le cœur, tu vois. Plein d'émotions en disant, voilà, Christian est parti, on est associés. Faut m'aider, quoi. Et il m'aide. Et il me donne du temps, il me donne des conseils et tout. Et de là, j'arrive à finir avec des bouts de ficelle, avec un peu d'argent que je trouve. Et ça devient un succès. On prend tous les prix et on le distribue en Amérique. Mais pour te montrer encore la mentalité française, je ne trouverai jamais une distribution en France, alors que c'est une star dans son pays, Christian.
Bah oui.
Seul pays où je n'arrive pas à le vendre, hein, d'ailleurs. Où je l'ai mis en VOD sur Canal+. Je l'ai vendu en Chine, je l'ai vendu aux États-Unis. France, Canal+, je le propose, il reste en option, ils ne me le prennent pas. Bon, bref, je ne pousse pas, je me dis, c'est pas grave, c'est que c'est comme ça, tu vois. Et donc, si tu veux, petit à petit, je me mets un peu dans ces documentaires et je retrouve mon confrère de l'époque avec qui je faisais des petits documentaires.
À tes débuts,
des petits films.
US,
ouais. Dominique Milano, qui est un expat italien aussi qui vit ici français. Et il me dit, écoute, j'ai rencontré cet acteur super sympa, qui est légendaire, qui a fait Reservoir Dogs, Kill Bill, Michael Madsen. Qui est un mec qui m'a fait rêver aussi dans les films, tu vois. Et donc, de là, on fait un déjeuner, le contact passe super bien, et je m'associe avec eux, et on fait un documentaire sur la vie de Michael Madsen. Et comme Les Anges, ça périclite un petit peu, et que je sens que c'est la fin, etc., je me concentre vraiment sur ce documentaire, et de là, Michael, eh ben, il nous emmène un autre rêve, quoi, tu vois. C'est un film, la vie, mais je te jure que c'est vrai, Et il nous organise un rendez-vous avec Quentin Tarantino. Quentin Tarantino nous cautionne le documentaire et fait partie de l'aventure.
Wow.
John Travolta, Charlie Sheen, voilà. Et donc, on vient de le finir. On vient de gagner Mammoth, le festival de Mammoth. Et on est nominé dans deux semaines à Rome. Donc, je pars à Rome.
Ah, félicitations, super. D'accord.
Donc, on en est là. Et dans la partie production et tout, entre-temps, on n'oublie pas qu'on est frappé par le Covid, qu'il n'y a plus de production, qu'on galère tous pendant un an et demi, que moi, j'ai l'idée de génie de monter des Ghost Kitchen de sushi comme mon pote de l'époque Romain. Je remets tout en œuvre, qui fait Secret Story. Il est dans la restauration et dans les clubs. Donc, je monte des Ghost Kitchen pendant le Covid.
C'est quoi des Ghost Kitchen?
Ghost Kitchen, c'est où, en fait, tu as un chef dans des cuisines et qui prépare des sushis ou autre chose et tu fais que par livraison, tu vois. C'est-à-dire
d'accord.
Que c'est un restaurant
virtuel.
Ah bah
virtuel. Oui, pendant le Covid, ça a tout son sens.
Voilà, donc je développe ça, je mets un chef dans une cuisine, on se retrouve bloqué dans des cuisines, on ne fait plus de production. Enfin, c'est chaotique, mais j'apprends un nouveau truc et où je perds un peu de sous, d'ailleurs. Mais ce n'est pas grave, j'apprends. Et en fait, ça m'emmènera, si tu veux, une fois que j'arrête Les Anges et que je continue ma production de documentaire, à ouvrir un restaurant de sushi à Los Angeles.
No way.
Voilà, qui s'appelle d'accord. Asai Sushi, qui a un N-roll bar comme à Tokyo, où je m'associe, où je monte ce truc depuis deux mois, qui fonctionne bien, en fait, et où je passe du temps là-bas, et ça me fait marrer parce que je suis de temps en temps derrière le bar et je parle aux gens, etc. Voilà. Donc, c'est un film, quoi, tout ça.
Et pourquoi les sushis? Enfin, genre, comment c'était venu?
En fait, les sushis, c'est comme on avait commencé ces Ghost Kitchen avec des sushis. Et quand c'était associé avec un pro, tu vois, du sushi, il m'a sollicité comme il avait un endroit très bien placé à West Hollywood. Il m'a dit, j'ai cet endroit, tu veux mettre un peu de sous, tu veux pas rentrer dans l'affaire. Et donc voilà, ça s'est fait en fait comme ça. Je me suis retrouvé actionnaire majoritaire dans ce restaurant parce que je l'ai fait par instinct. Et en fait, la moralité de toute cette histoire, et quand les gens nous écoutent, c'est qu'en fait, font un plan, mais il n'y a pas de plan. Ça veut dire qu'il faut juste avoir un goal, savoir où tu veux aller, mais il faut suivre son instinct et il faut suivre le... C'est toi et ta chance malgré ton talent et malgré ton argent, parce que tu peux en avoir le lendemain, ne plus avoir et tout. Moi, mon rêve, quand je suis parti, c'était de vivre à Los Angeles, d'avoir une famille, d'acheter une maison et de pouvoir faire des projets artistiques qui me plaisaient, tu vois. Ouais. Donc, j'ai rempli toutes ces cases et tu sais... le succès, c'est rien. L'argent, c'est rien, parce que le succès, tu peux pas en avoir tout le temps. De l'argent, tu peux en avoir et plus en avoir. Mais je pense que le plus important, c'est d'être heureux. Et si j'étais pas parti, si je l'avais pas tenté, j'aurais été malheureux. Mmh. Tu vois.
Ouais.
Voilà. Et c'est ça ce qu'on doit garder, même par rapport aux expats. Maintenant, attention, il faut pas non plus être rêveur. Et ne pas arriver préparé. C'est comme un combat pour un boxeur en 12 reprises, l'Amérique. Ça veut dire que tu as un temps pour l'entraînement, tu as un temps pour monter sur le ring et pour décrocher ton titre, parce que c'est dur. Je peux pas mentir aux gens qui ont l'intention de venir. Ça veut dire que c'est un combat. Tu vas rencontrer beaucoup de vicieux. Tu vas surtout quand tu n'arrives pas avec un métier, que tu vas pas travailler dans une entreprise et que voilà, quand tu es un indépendant comme moi et que tu es un autodidacte et que tu apprends sur le terrain, faut être plus vif et plus fort que les autres, parce que sinon tu te fais manger. Tu deals avec des avocats, tu deals avec des agents, tu deals avec et là c'est compliqué, tu vois. Donc je pense qu'il faut vraiment se préparer. Il faut être ambitieux, mais il ne faut pas être stupide dans ton rêve en te disant « je vais tout casser » et avoir l'arrogance, tu vois. Souvent,
ouais,
les Français,
ou la naïveté, ouais.
Ouais, ils ont l'arrogance. Déjà, ils ne veulent pas bosser. Ils pensent qu'ils vont être movie star ou entrepreneur en 6 mois. Ça n'existe pas, ça, tu vois. C'est, on se remet en question en permanence. Même aujourd'hui, je me remets en question, alors que... On a un documentaire, là, on a des stars interplanétaires et tout. Et tous les jours, on se remet en question. Donc voilà, mais c'est quand même c'est un drôle de chemin quand je retourne en arrière. C'est un film.
Bah, merci beaucoup de m'avoir raconté ton histoire. C'est clair que c'est un film. Peut-être que ce sera un documentaire que tu feras un jour.
On sait jamais. Ou un livre. Mais en tous les cas, non. Mais c'était intéressant de comprendre les débuts parce que... L'aventure, ça a été aussi un périple au début, tu vois, à se chercher, à pas savoir, voilà, et ça a pas commencé comme ça. Et j'avais pas de contact, hein. Ça veut dire que j'avais pas des parents dans la télé. Mon père essayait au cinéma, il s'est planté aussi, mais j'avais pas de contact dans les chaînes et tout. Ça a vraiment été au culot et à la rencontre que tout s'est fait, tu vois. Et c'est là où c'est un message qui est important, c'est vraiment tout est possible, quoi. Il suffit juste d'y croire.
Et de se préparer, du coup.
Et être bien préparé. Et je parle souvent du boxeur parce que j'ai beaucoup de respect pour ce noble art. Et c'est vrai qu'il y a un tel entraînement avant de devenir champion. Et c'est ça, en fait. Le rêve américain, c'est vraiment, je le mets au même niveau qu'un boxeur qui veut devenir champion du monde. C'est un entraînement draconien avant de monter sur le ring pour prendre le titre et la ceinture. Tu vois.
Et est-ce que tu penses que, tu vois, là, ça fait quoi? Ça fait 20 ans que tu es aux US. Tu le disais, le coût de la vie a changé partout, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est devenu un peu fou. Mais il n'y a pas que ça, finalement. Est-ce qu'il y a des choses qui, tu penses, qui seraient plus possibles, tu vois, je ne sais pas, certaines rencontres que tu as faites, certaines opportunités que tu as eues. Enfin, tu vois, un truc, en fait, qui pourrait aider, justement, des personnes qui aimeraient... tenter le rêve américain 20 ans après. Qu'est-ce qu'on...
Écoute, je pense que... Alors, encore une fois, c'est toi et ta chance. Moi, j'ai l'exemple d'un copain qui était dans l'immobilier, dans la location, et s'est mis dans la vente. Ça commence à bien marcher pour lui. Il a cette énergie. Il est jeune. Enfin, il a 36 ans. Moi, j'en ai 48 aujourd'hui. Donc, j'ai plus la même énergie et j'ai goûté à mon rêve américain. Je pense que tu as des opportunités. C'est plus pareil. C'est plus... facile comme avant parce que les gens n'investissent beaucoup moins sur toi Ils veulent des vraies valeurs, des gens qui ont des formations. Tu vois, il faut avoir fait plus d'études avant. C'était beaucoup plus un pays d'autodidactes, de rêveurs, où tu avais une idée et tu trouvais $1 million pour la développer, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Mais tu peux faire la bonne rencontre au bon moment, c'est le timing. Moi, maintenant, avec du recul, ça fait 19 ans, 20 ans, j'ai plus ce rêve américain. Ça veut dire, tu vois, la retraite, je l'imaginerais plus dans le sud de la France, tranquille. Ça ne me fait plus rêver. Puis j'ai eu des événements, si tu veux, dans ma vie où la distance, c'est un vrai, c'est problématique. Ma mère était malade pendant 3 ans avant de partir. Je faisais des allers-retours. C'est dur quand t'es expat. Ça veut dire, t'as envie de profiter quand tu vieillis de ta famille, de tes parents. Et tu te dis que toutes ces années où t'as pensé au succès, à ta réussite personnelle, aux rêves, eh ben, c'est des années que t'aurais pu passer avec ta famille pour profiter d'eux, tu vois. Et moi, au bout de tant d'années, je pense à ça, en fait. Mais je pense que, et je ne veux pas casser le rêve des gens en leur disant « l'Amérique, c'est devenu trop dur ». L'Amérique, je pense qu'il y a encore des choses à faire, mais ça tout dépend d'une chose, c'est de ta motivation, de ta niaque, de ton envie. Le timing, il est différent pour moi. J'ai plus la même passion, j'ai plus le même rêve, parce que les gens qui me faisaient rêver, je les ai rencontrés. J'ai goûté, si tu veux, on m'a dit « tu le veux tellement, alors on va te donner un morceau ». Et tu vas goûter, et puis on va te le reprendre, parce que ça ne dure pas infiniment. Mais grâce à Dieu, j'ai réussi à acheter une maison, etc. J'ai fait des bons moves, comme on dit. Mais tu as toujours des opportunités, mais il faut vraiment l'avoir en toi, et c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus difficile. Tu vois, tu peux faire la bonne rencontre, mais aujourd'hui, tu ne peux pas arriver comme on arrivait à l'époque avec $5,000. Ça n'existe plus. Les appartements, les one bedroom à Los Angeles, les 2 pièces, ils sont à 3 000. Tu vois, t'achètes une voiture et tout, tu peux plus arriver avec... moi, mon copain Dominique, qui est réalisateur aujourd'hui, il est arrivé avec $1,000 il y a 30 ans. Techniquement, tu peux plus le faire.
Ça, c'était une autre vie.
Voilà, les billets d'avion, ils étaient à $300 aller-retour. Maintenant, même sur French Bee, en économique, ça te coûte 600, 700, 800 aller-retour. Tout est devenu beaucoup plus cher. Tu le vois sur l'essence, sur la vie, sur tout. Donc, il faut arriver avec des sous, il faut arriver préparé, il faut arriver avec un plan. Tout ça, à l'époque, tu pouvais arriver avec $1,000 et le rêve de devenir le nouveau Brad Pitt. Et t'étais serveur et tu gagnais 6 000 par mois et tu vivais avec 4 personnes dans un two bedroom. Tout ça, ça n'existe plus. Même prendre un appartement, on demande des fiches de paye.
Tellement de garanties. Ouais.
Voilà, avant, tu arrivais, tu donnais ton numéro de sécu qui est en Amérique le truc le plus important pour prendre ce que tu veux, une ligne de téléphone, un appartement. Tu n'avais pas de caution, tu n'avais pas de rien. Donc, c'est devenu plus dur. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas mettre un coup d'épaule à une personne dans une librairie ou dans un nightclub, et il va te donner ta chance. J'y crois encore et je pense que c'est possible. Et je le vois encore tous les jours. Je vois des gens qui réussissent. Mais il faut arriver. Le rêve a un prix. Le rêve américain coûte aujourd'hui de l'argent. Voilà, c'est, il n'est pas gratuit. C'est beaucoup de concessions parce que tu te fermes sur plein de choses avec tes amis, ta famille, tout un tas de choses. Et puis, il faut arriver avec des sous. Voilà. Je ne serais pas cette catégorie de rêveur en disant tu peux arriver avec $1,000, $1,500 et conquérir l'Amérique. Je serais un menteur et ce n'est pas vrai. Tu vois.
Eh ben, merci pour ta franchise. J'ai une dernière question pour toi, Fabrice. Tu me dis que voilà, tu as goûté finalement à ce qui t'a amené aux États-Unis. Tu es heureux, tu es bien, tu as des projets. C'est quoi du coup la suite? Ça ressemble à quoi ton futur? Est-ce que tu as une idée ou est-ce que tu te laisses maintenant justement porter par cette vie qui te plaît bien?
Non, en fait, tu sais, la suite, quand tu te retrouves dans ma situation, alors sans rentrer dans des détails trop personnels, mais en ayant perdu une mère qui avec qui tu étais très proche, et fusionnelle, et, etc., c'est de m'occuper au maximum de mon père, qui est encore là, de voir grandir ma fille, de faire effectivement quelques business qui me plaisent, finir de mettre des pierres à l'édifice pour préparer un exit. Ça veut dire être peut-être entre Los Angeles et le sud, tu vois, de la France, etc. Les rêves ne sont plus les mêmes. Ça veut dire que j'ai plus envie de devenir une superstar. Si demain, je reviens, tu vois, avec un beau projet en devant de la scène et que ça fonctionne, c'est super. Si c'est pas le cas et que je fais des trucs moins bien, bah ça sera pareil aussi, tu vois. Mais bien entendu que j'ai encore envie d'entreprendre et j'ai des projets en développement, de documentaires. Là, je suis sur un projet d'organisation de boxe en France parce que la boxe me plaît, avec un très gros pay-per-view américain. Tu vois, je développe toujours parce que ça fait partie de mon ADN. Le restaurant, je l'ai fait pas pour en monter un, pour essayer d'en faire une chaîne, d'essayer d'en faire, tu vois, plusieurs et de faire une franchise, un groupe avec mes associés, de le revendre. Voilà. Mais c'est plus, si tu veux, ma priorité. Voilà. Ma vie aujourd'hui, c'est la priorité, c'est plus mon business. C'est plus, j'ai compris aussi beaucoup de choses parce que le succès t'emmène dans une forme de solitude. Parce que tu restes dans ton monde et t'essayes de t'extraire des gens qui sont un petit peu intéressés, donc t'apprends beaucoup. Et puis le malheur, plutôt la tragédie de perdre des gens proches, comme tes parents, etc., te font aussi comprendre plein de choses sur les amitiés, qui sont très fragiles, que peu de gens sont présents, malgré que tu connaisses la planète entière. La famille, le pire. Ça veut dire ça m'a appris aussi que la famille ne pouvait ne pas être solide du tout et solidaire. Donc tout ça, si tu veux, ça m'a donné un vrai recul par rapport à mes ambitions. Donc les prochaines étapes de ma vie, bah, c'est de continuer à créer, à construire, à faire des trucs qui me plaisent, mais avec beaucoup moins de priorité sur le succès. Et plus sur kiffer, tu vois, et être avec mes proches que j'aime, quoi, tout simplement.
Eh ben génial. Voilà. Merci beaucoup.
Ben merci à toi, ça a été un plaisir en tous les cas.
Je te souhaite une excellente continuation, Fabrice.
Bah toi aussi. Et bonjour à tous les auditeurs. Et puis je m'excuse, j'étais un peu enrhumé, je sors d'une grippe, c'est pour ça.
Ah ben ça s'entend pas.
Ah bon, c'est bon alors, parfait.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Fabrice Sopoglian pour ce chouette moment qu'on a passé ensemble et pour sa disponibilité. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, vous le savez désormais absolument par cœur, n'hésitez pas à en parler autour de vous, dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, au boulot, bref, peu importe. Et si vous avez encore 30 secondes devant vous, direction Spotify ou Apple Podcast pour donner 5 étoiles au podcast et nous laisser un petit mot. Vous le savez, ça compte énormément. Bon, et l'épisode prochain, on va parler de quoi ? Eh bien, nous allons mettre le cap sur l'Angleterre. Je vous laisse découvrir un extrait.
Moi, j'ai fait le tournage l'été dernier. En fait, j'ai été contactée quand j'étais d'ailleurs à Munich, juste avant de déménager, donc... dès que je suis arrivée à Londres, le tournage a commencé dans les 2 mois après mon arrivée.
En attendant de nous retrouver à Londres, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis donc à mardi pour cette nouvelle histoire. À bientôt. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.